Amen. Nous tournons maintenant dans le psaume 63 que nous allons considérer ensemble. On va le lire au complet pour s'introduire parce qu'on l'a lu, mais c'est bon de le relire, avoir encore la saveur d'ensemble de ce beau psaume. Alors, on peut lire dans le psaume 63, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. » Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu, quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Ah Seigneur, on te remercie qu'on a ta parole bénie, la vérité, qu'on peut considérer plonger nos regards dans cette loi de liberté, dans la parole de vie. Et Seigneur, que tu puisses faire ton œuvre. Tu es le Dieu vivant. On te prie, Seigneur, que tu nous rencontres chacun ce matin là où on est, dans nos vies, dans notre marche. Et Seigneur, aussi rencontrer ceux qui ne t'ont pas encore rencontré pour le salut de leur âme. Seigneur, tu es le Dieu personnel. Tu es le Dieu qui te fait connaître, qui s'est révélé et qui continue, Seigneur, de te faire connaître. On te prie, Seigneur, de te faire connaître à nous chacun dans nos besoins spécifiques. C'est notre plus grand besoin, c'est toi. Ah, Seigneur, qu'on ait cette soif de toi. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce psaume, ce beau psaume capture, si je peux prendre l'expression, capture de façon unique et puissante le secret de la sanctification. Le thème du mois, c'est Christ, notre sanctification. Et on voit que la sanctification, le secret de la sanctification, ce n'est pas une formule, une façon de faire, une bonne volonté, bonne disposition, ou une espèce d'expérience extraordinaire qu'on pourrait avoir, mais c'est avoir soif de Dieu. On regarde ça, là, à la base, c'est ça. C'est rechercher Dieu pour qui il est. On le voit dans le verset 2, « Mon âme a soif de toi ». Et lorsqu'on a cette soif de Dieu, on n'est pas laissé bredouille. Verset 6, ça dit que mon âme encore est rassasiée. Elle est satisfaite. Oh, j'aimerais vouer le message de ce matin à ce beau et puissant psaume en regardant avec vous Christ, notre sanctification par la soif de Dieu. Et trop souvent, on a traité la sanctification, comme bien d'autres choses d'ailleurs, comme une chose à faire, une checklist, une expérience à rechercher. Mais ce psaume est sans équivoque. La sanctification, c'est une personne qu'on recherche, qu'on désire, qu'on veut connaître, avec laquelle on veut passer du temps, ouvrir notre cœur, être intime lorsque les moments difficiles nous frappent, se décharger, se vider le cœur lorsqu'il est rempli de chagrin et d'amertume. Autrement dit, la sanctification a tout à voir avec le désir, la propension, la direction, le focus sur Dieu, notre relation avec lui. Et ça va parfaitement dans le sens de ce qu'on voit depuis déjà quand même pas mal de temps. Le Seigneur nous dirige à considérer depuis un bout de temps, puis on a eu même une saveur différente venant des États-Unis avec pasteur Van Gelderen, mais lui-même le dit souvent, la vie chrétienne, c'est une personne. Christ est la vie chrétienne. Il est notre vie. Christ est ma vie. Et mourir, mais t'es un gain, c'est pas juste une chose à faire, c'est une personne à découvrir, c'est une relation extraordinaire. Tout est une question de focus. Et je me permets l'expression, c'est peut-être un peu anglicisé, mais vous avez tous compris ce que je veux dire. Tout est une question de sur quoi je me concentre, parce que, mes amis, nous dépendons de ce sur quoi nous nous concentrons, ou sur qui nous nous concentrons, sur quoi nous portons notre attention et nos désirs. Jésus le dit dans ses mots, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 21. Et vous allez constater avec moi que David, ici, l'homme selon le cœur de Dieu qui a écrit ce psaume, comprenait ces choses, il les vivait à fond, pour vrai. On parlait de ça hier, les hommes au déjeuner. Comment ça? Dieu appelle David, l'homme selon son cœur. Il a péché. C'est pas très reluisant, le track record de David. Mais on le voit à cause de ça, il avait soif de Dieu. Il n'était pas parfait, mais il aspirait à connaître ce Dieu parfait, satisfaisant. Son âme en était rassasiée. Je crois que c'est ça qui faisait qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il désirait Dieu. C'était ce qu'il avait dans son cœur le plus fort. Et oui, il avait soif de Dieu. Et ce qu'on voit dans le psaume, à partir du verset 3, ça dit « Ainsi je contemple ». Et là, on s'en va jusqu'au verset 12 avec tous les fruits de cette soif. Quelqu'un qui a soif de Dieu, ça va donner des choses. Et ces choses-là, ça porte du fruit. Le fruit de la vie de Christ. Et par la foi, on est connecté à sa vie. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Trois fruits de Christ, notre sanctification, par la soif de Dieu. D'abord, dans les versets 3 à 5, on a le fruit de la révélation de Dieu. Remarquez que dans les versets 3 à 5, ça nous parle de qui Dieu est, ça décrit des attributs de Dieu. Regardez au verset 3, « Ainsi je contemple dans le sanctuaire, je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie, et mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » Donc on voit qu'il se concentre sur la puissance, la gloire, la bonté de Dieu. C'est l'objet de son attention. Il ne veut pas juste dire « Ah, ok, je pense à Dieu. » Non, il pense à quelque chose de spécifique par rapport à Dieu. Sa puissance, sa gloire, sa bonté. Et il médite là-dessus, il médite sur lui, c'est Dieu, verset 7, « Lorsque je médite, je pense sur toi, je médite sur toi », verset 7. Il pense à Dieu, il médite sur lui, il pense, il repense, il fait de Dieu l'objet de ses pensées. Et à ce sujet-là, j'aimerais vous partager un beau passage messianique. Aimez-vous les passages messianiques? Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Ésaïe, il y en a plein. Ésaïe regorge de passages messianiques. Écoutez Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je dirais que méditer sur des passages comme ça, sur la révélation de l'œuvre messianique dans l'Ancien Testament et sur son accomplissement dans le Nouveau, parce qu'en passant ce que je viens de vous lire là, Jésus lui-même l'a ouvert un jour dans la synagogue à Capernaum. Il a lu ça et il a dit « Ceci est accompli en moi ». Il est celui qui a accompli ce passage. Et méditer là-dessus, c'est un sujet de joie, de paix, de délivrance. Quand vous sentez pris, puis les Roumains disent « encore date », vous avez la corde est raide, là, vous avez le gros nerf de même qui est pogné, là. Lisez des passages de même. Méditez là-dessus, apprenez-les, repassez ces choses dans votre cœur. Vous savez, c'est pas plus compliqué que ça, c'est ça, avoir soif de Dieu. Dieu, Je veux me ramener sur toi. Puis en passant, il y a un échange qui se fait dans ce temps-là. Dans le passage ici d'Ésaïe, on voit la proclamation de l'œuvre messianique, là, de délivrance, là, bonne nouvelle aux malheureux, guérir les cœurs brisés, proclamer la liberté aux captifs, aux prisonniers la délivrance. Ben ça, ça donne du fruit, ça donne un échange au chapitre, au verset 3 du même chapitre. On a lu comment il y avait un échange. Avez-vous remarqué comment ça disait? Un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand on se tourne vers Dieu, notre visage est rayonnant de joie. On échange la tristesse pour la joie. On échange ce qui est brisé pour ce que Dieu refait, reconstruit. Et ça, c'est merveilleux, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est un pattern dans la parole de Dieu. Pourquoi on trouve que Jérémie, les lamentations de Jérémie, c'est tellement précieux? Surtout pas, j'imagine, à cause des chapitres 1 et 2, début du chapitre 3. Il décrit le malheur, ça va tellement mal, puis c'est dur à lire même. Mais pourquoi qu'on aime tant ça? Parce que ça finit pas là, justement. Parce qu'en plein milieu, il nous dit... Dans Lamentation, chapitre 3, verset 20, « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repenser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Il nourrit son cœur, là. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. » C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voyez-vous comment ces hommes de Dieu-là, du sein de l'épreuve, David dans le désert, Jérémie face à la destruction de Jérusalem, ils s'accrochaient à qui Dieu est. Ils repensaient dans leur cœur le caractère de Dieu, comment il s'est révélé à nous. Et que nous aussi, on s'attache, on s'accroche à cela, parce que c'est la réponse à nos besoins. C'est la réponse à nos besoins, c'est Dieu, c'est qui il est. Quand on a peur, le réconfort de sa souveraineté, de sa bonté, c'est pas juste une théorie, c'est notre vie. Quand on souffre, la consolation de sa grâce et de sa proximité. Dieu est un Dieu personnel. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tout ça nous fait aboutir à la délivrance de la louange. Savez-vous, quand on arrive, lorsqu'on a passé par les différentes épreuves, les choses qui nous rabaissent, et qu'on arrive, comme dans le psaume ici, comme dans Lamentation que je vous ai cité, quand on arrive à louer l'Éternel, de cœur, à offrir à Dieu un sacrifice de louange, là, on a obtenu vraiment la délivrance. On a peut-être encore des problèmes. On est peut-être encore dans une prison, je disais ça aux prisonniers, mais on est plus libre que les gardes qui sortent et qui rentrent à tous les fois. Parce qu'on est délivré de par l'Éternel. Donc, c'est ça, le fruit de la révélation de Dieu, c'est méditer sur qui il est, sur qui Dieu a révélé être, pas ce qu'on s'en imagine, mais qui il est réellement. Ça nous ramène à la réalité. Ben souvent, on part dans des idées, des imaginations, des scénarios, mais Dieu est l'ultime réalité. Quand on revient à lui, on revient sur le plancher des vaches. Et Dieu est l'ultime réalité qui définit tout. Il est le fondement de notre vision du monde. On va parler de ça pendant la pause. On va en parler aussi après-midi dans notre étude sur la vie victorieuse en Christ. Et pour vous montrer comment c'est important en ce moment. Vous savez, en ce moment, on est dans un temps où même les gens qui ne connaissent pas Dieu voient que notre société, la politique, notre monde est en effervescence. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et c'est facile, et je dirais même naturel, de s'égarer dans des réalités alternatives et fausses, dont les hommes seraient les maîtres, dont les hommes seraient la plus grande menace, dont les hommes dirigent et contrôlent. Mais la réalité, c'est que le Seigneur dirige et contrôle et que c'est lui qui est à craindre, et lui seul. tous les scénarios catastrophes qu'on pourrait avoir, savez-vous quoi? Ça va être que Dieu va permettre qu'il va arriver. Saviez-vous que si, mettons, Dieu permet, comme avec Corrie ten Boom, qu'il nous arrive quelque chose et on se retrouve en prison, dans un camp de concentration, ben Dieu va nous utiliser là, puis ça va être l'endroit le plus joyeux sur Terre pour nous autres parce que Dieu va être là. C'est dur à croire, hein? Mais c'est la vérité. Ça, c'est une bonne façon de dire à quelqu'un, les chrétiens ne vivent pas dans un petit monde de licornes qui se font des accords. Non, on est prêt à faire face à la réalité, mais on sait que Dieu va être là. Ça, c'est la réalité. Donc, qu'on ne se laisse pas avoir sur le fait. Puis en passant, oui, on va être là, si le Seigneur le permet, mais il transforme le mal en bien, on va faire de quoi de beau puis de bon là-dedans. On n'a rien à craindre. On a à craindre celui qui a pouvoir sur notre âme et non pas sur ceux qui ont pouvoir sur notre corps. Ou comme dirait Martin Luther, laissons-les faire. Ils n'y gagneront guère. Le royaume nous appartient. Et n'oublions pas que la première chose que Satan a attaqué dès le jardin d'Éden, c'est le caractère de Dieu. Spécifiquement sa bonté. Ah, Dieu, il t'a pas tout dit. Comme si Dieu était pas bon, puis tu sais, comme si Dieu avait quelque chose à cacher, puis... Pensez-vous que Satan a changé? Pensez-vous qu'il arrête de s'attaquer au caractère de Dieu et spécialement à sa bonté? Non, mais Dieu a toujours la même solution parce que dès la chute et pendant tout le reste de la parole, Dieu a révélé. C'est ça le fruit, ça a révélé qui il est. Et on voit sa bonté dans toute la trame narrative de la rédemption puis comment ça nous révèle le Rédempteur et toute sa beauté. Ça, c'est la solution au problème du monde et de l'Église en ce moment qui doit se confier dans le caractère rédempteur et triomphant de son Dieu. Notre Dieu règne encore. C'est de ça que l'Église doit se nourrir si elle veut être le sel de la terre. C'est quoi? On a essayé de faire le sel de la terre puis de faire la lumière du monde. Oh non, Dieu, c'est ce qu'il a fait de nous. On a juste à l'être comme ça. Puis Dieu va faire porter du fruit à ça. Il y a quelqu'un qui a dit, nous glorifions Dieu le plus lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. Et ça, ça commence par se satisfaire de qui il est. Simplement. Simplement, mais c'est pas simple. C'est tellement grand, c'est infini. On va passer toute l'éternité là-dessus. Une vie, c'est pas assez. Ça m'amène au deuxième fruit. Celui de la satisfaction de Dieu. Non seulement la révélation de Dieu, mais la satisfaction de Dieu. Regardez à partir du verset 6. « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Hein, voyez-vous comment ici, David exprime comment il est rassasié, comment il est satisfait. Et ça, c'est unique, mais c'est réel pour tous ceux qui se confient en Dieu par la foi dans l'humilité. Comparez ça à la peur, à l'amertume, à la convoitise, qui sont l'opposé, qui donnent des vies misérable. Mais lorsque nous sommes rassasiés et satisfaits en Dieu, on le voit, ça donne la louange. Ça donne un cœur qui célèbre Dieu, qui est dans l'allégresse, qui est attaché à Dieu, dont Dieu est le soutien. De la même manière que la morosité, l'aigreur, la méchanceté, le mécontentement sont le fruit de l'absence des diverses grâces de Dieu dans notre vie. C'est une bonne façon de savoir le barème spirituel de notre vie. Si je suis satisfait en Dieu. Pas dans mes circonstances. Pas dans ce qui arrive dans ma vie, dans ma famille, dans la société. Mais en Dieu. Et ça, j'aimerais vous avancer que c'est un sacrifice. De louer Dieu comme ça, ce n'est pas dans la nature humaine. C'est quelque chose que Dieu fait par sa grâce. Écoutez quelques versets à ce sujet-là. Ça dit, par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Apportez avec vous des paroles et venez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes nos iniquités et reçois-nous favorablement. Et finalement, dans 1 Pierre, je ne vous ai pas dit, j'ai cité Hébreux 13, 15, Psaume 50, 14, Osée 14, 2, et maintenant 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tout ça a son sens lorsque Dieu nous satisfait qu'il est notre louange, notre contentement, comme Paul dit, qu'on apprend à être content dans l'état dans lequel on est. Ce n'est pas naturel, mais lorsque Dieu nous rencontre là où on est, c'est ce qui va sortir. C'est le fruit de la présence de Dieu dans nos vies. Et ça, je dirais, le point important ici, ça prend l'effort, le sacrifice de la foi. De se dire, je ne vais pas m'apitoyer sur moi-même, je ne vais pas regarder à tout ce qui va mal, mais je vais me retourner vers Dieu. Il y a un effort, ça demande un effort conscient de dire, je ne vais pas me laisser abattre là-dedans, je vais tourner mes regards vers l'Éternel. Je ne vais pas me concentrer sur tout ce qui va mal, je vais me concentrer sur le Dieu qui change le mal en bien. Je ne vais pas me concentrer sur ce qui est mauvais, mais sur le Dieu qui est bon. Comprenez-vous comment? Il y a vraiment un effort, là. Ça ne va pas arriver automatiquement, mais lorsqu'on fait ça, boum! La grâce de Dieu embarque et là, ça donne ces louanges-là. C'est ça le sacrifice de louange. Et lorsqu'on se tourne vers Dieu, nous, notre visage est rayonnant de joie. C'est l'échange de la foi. Comme Christ qui n'a pas... Je vais vous lire en fait, Hébreux 12:2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'échange, il voyait ce qu'il y avait devant lui, c'était la joie d'avoir accompli l'œuvre rédemptrice. Il a supporté la souffrance à cause de ça. Et c'est la même chose pour nous. C'est ça l'échange de la foi. Il n'y a pas d'autre façon. Et ça, c'est lorsqu'on médite sur Dieu, lorsqu'il est l'objet de nos pensées, de notre méditation, ça va nous donner la victoire sur la peur, la honte, ce qui nous retient. Et là, on va pouvoir, comme au verset 8, dire que Dieu est notre secours et qu'on est dans l'allégresse à l'ombre de ses ailes. Pourquoi? Parce qu'on est venu se réfugier auprès de lui. Et Dieu secourt le malheureux. Il est auprès de ceux qui l'invoquent. Il est un refuge, un rocher, une forteresse. Avoir une relation d'attachement avec notre Dieu qui nous soutient. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. La droite, ce n'est une expression messianique. La droite de l'Éternel. Ça nous parle de Christ, de son œuvre rédemptrice. Dieu nous soutient. Il soutient les affligés, les esprits abattus. Parlez-moi de satisfaction. Combien ça serait insensé avec un Dieu si satisfaisant, si vrai, si satisfaisant, comment c'est insensé d'aller vers des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Mais mes amis, vu qu'on est dans une guerre spirituelle, nous avons des ennemis internes, externes, qui font la guerre à l'âme, d'où le besoin du troisième et dernier fruit ce matin, le fruit de la protection de Dieu. Oh, on a besoin de se réfugier en Dieu parce qu'on est dans une guerre, versets 10 à 12. Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Ce n'était pas une théorie ici pour David. Il était poursuivi par des gens qui voulaient le tuer. Mais voyez-vous comment Dieu était sa protection, sa confiance. Et notre plus grande protection contre les ennemis comme ça, ou contre notre propre cœur, qui a tendance à vouloir aller se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, c'est la soif de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit, ils m'ont laissé moi qui suis une source d'eau vive. Si on ne soif que celui qui a soif vienne, puis qu'il boive, et Dieu satisfait. Ah, j'aimerais juste vous montrer comment, quand je dis que David est un homme selon le cœur de Dieu, écoutez-là comment il parle de Dieu et de sa soif de lui dans ces deux psaumes que je vais vous citer. D'abord 27, les quatre premiers versets. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon corps n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Écoutez le psaume 34, versets 5 à 7. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Mes amis, quand on a ça, on a tout ce qu'on a besoin. C'est ça la plus grande protection. La protection de nous-mêmes qui peut s'enliser dans toutes sortes de mauvaises pensées, de peur, de crainte. Les plus grandes choses qui nous menacent, ce n'est pas tant les choses extérieures, c'est comment on répond à ces choses extérieures. Vous savez, on voit dans la série sur notre victoire en Jésus-Christ les dimanches après-midi, comment on avait dans le jardin la sécurité, l'acceptation et l'importance que Dieu nous avait donnée. On a perdu ça par la chute et on l'a complètement retrouvé en Jésus-Christ. Et c'est ça notre plus grande protection. On veut essayer de trouver dans le monde partout, avec des oasis, pas des oasis, mais des mirages qui semblent être des oasis, mais le vrai authentique, oasis, réel, c'est Christ qui nous donne toute la sécurité dont on a besoin, toute l'acceptation dont on a besoin, et toute l'importance ou la valeur, si vous voulez, dont on a besoin. Vous savez, on pourrait faire le tour, puis dans les deux dernières années, on a vécu toutes sortes de choses, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau même de l'Église. Certaines choses, certaines situations, certaines personnes nous accablent et nous tirent vers le bas. Pourquoi? Parce que souvent, on y cherche la sécurité, l'acceptation et la valeur. Et on ne peut jamais le trouver. C'est pas fait comme ça. On ne peut pas trouver ça dans des personnes, aussi merveilleuses puissent-elles être. Mais la vie surnaturelle de ce qui a été cité tantôt, de Christ qui vit en moi, par la foi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie par la loi de l'esprit de vie qui m'affranchit de la loi du péché et de la mort, cette vie-là nous donne des ailes comme un aigle. Un autre passage d'Ésaïe, écoutez, c'est tellement beau. Savez-vous ce que je vais vous citer? Là, je vous le dis, je ne le trouve plus sur ma feuille. OK. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ou pour prendre une autre image ici, comme un aigle qui prend son envol, on a déjà parlé, vous rappelez-vous, l'avion de la grâce. Lorsqu'on est en Jésus-Christ, lui peut nous amener à contrer la loi de la gravité qui nous tire vers le bas. En lui, nous avons la victoire. Pas parce qu'on se débat dans l'avion, juste le fait d'être en lui, de demeurer en lui, il nous donne la victoire sur ce qui nous tire vers le bas, nous fait monter au-dessus de ce triste monde. Dieu nous rend capable, par sa grâce, d'être plus que vainqueurs, parce que lui nous a aimés. Ah, j'aime le proverbe à ce sujet-là. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Pas parce qu'il se pense bon, parce qu'il se confie en l'Éternel. Parce que Dieu est sa confiance, sa vie. Et le plus grand problème dans nos vies, ce n'est pas le monde qui est tout croche, ni même Satan qui est menteur, père du mensonge, meurtrier dès le commencement. Bien que c'est sûr que je sois des menaces réelles, des dangers grave, le plus grand danger, c'est comment on décide de répondre à ce qui nous arrive. De répondre à ce que Satan fait, à ce que le monde fait. Soit la réponse de la foi, de la confiance en Dieu, se tourner vers Dieu, ou la réponse de la peur, de la sagesse humaine. C'est pour ça que ce proverbe est tellement précieux à nos cœurs. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Écoutez aussi le psaume 94. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent, mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Psaume 94, 19 à 22. Écoutez aussi psaume 84. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Dans le fond, c'est si simple, mes amis. Tout est en Dieu. Tout est en lui. Il est la réponse. Tout est auprès de lui. Pourquoi aller ailleurs? Comme Pierre a dit, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la vie éternelle. La question, c'est est-ce que tu as soif de sa présence? Est-ce que tu désires être dans ses parvis? Est-ce que tu vas te réfugier à l'ombre de son aile? Est-ce que tu trouves dans ton cœur les chemins tout tracés de la délivrance? Mes amis, j'aimerais juste terminer avec quelque chose de collectif. Dans le psaume 65, juste à côté, au verset 5, regardez ce que ça dit. Psaume 65, 5. Prendre une gorgée avant. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous réjouissons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Quelle bénédiction de pouvoir faire partie des plans de Dieu. Mais ici, il y a vraiment un cri collectif. Nous nous réjouissons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Est-ce que on vient juste à l'église parce que c'est ce qu'on fait le dimanche matin? Ou est-ce que c'est une façon d'exprimer notre soif de Dieu? Puis quand on est dans la maison de Dieu avec le peuple de Dieu, on a là, dans notre cœur, puis ça s'exprime ensemble, on se rassasie du bonheur de sa maison, parce que Dieu est parmi nous, Dieu est là, au milieu des louanges de son peuple, et la sainteté de son temple, c'est quelque chose d'unique. On n'est pas un club, je faisais des blagues tantôt, mais on n'est pas un club social, puis tout ça, on est un endroit tellement privilégié, béni, à part dans le monde où est-ce qu'il fait bon être ensemble dans la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Ah, mes amis, est-ce que vous pouvez dire que vous avez soif de Dieu ce matin? Est-ce que peut-être que le vide qui est dans ton cœur, la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes la pensée de l'éternité. Peut-être que tu es ici, puis tu vois qu'il te manque quelque chose. Ben, il te manque pas quelque chose, il te manque quelqu'un. Si tu n'es pas sauvé, il te manque celui qui est la vie. Il te manque celui qui est le Rédempteur. Il te manque celui qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même comme une victime propitiatoire. Il s'est donné à notre place pour que on puisse avoir la vie. Lui, juste, est mort pour nous, injuste. Puis il n'y en a pas deux. Il y en a un seul. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est de lui que Dieu, que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, ça veut dire celui qui meurt à notre place, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Est-ce que ta foi est en Jésus seul ce matin? Si je te pose la question, pourquoi tu irais au ciel? Pourquoi tu rencontrerais Dieu puis il te laisserait rentrer dans son ciel? Il y a une réponse. C'est pas ce que moi j'ai fait. Si ça commence avec moi, s'il y a du jeu là-dedans, c'est pas la bonne réponse. C'est Christ. Ma confiance est en Christ, dans ce que lui a fait. C'est la chose la plus importante si vous êtes ici puis vous n'avez pas encore fait la grande demande. Demandez à Jésus de vous sauver. Et pour vous ici qui êtes un enfant de Dieu, qui êtes sauvé, mes amis, la soif de Dieu, c'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de gimmicks, de nouveaux trucs puis recettes. Mais soif de Dieu, puis ça porte du fruit, ça donne toutes sortes de belles choses. Mon âme a soif de toi. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on a soif de Dieu, il étanche notre soif. On est rassasié, notre âme est rassasiée. Oh, que nous puissions nous tourner vers Dieu avec ce désir, et je vais vous laisser dans un instant l'exprimer, mais que le peuple de Dieu puisse avancer avec ce désir pour Dieu lui-même, parce qu'il fait de grandes choses. Seigneur, on te remercie de ce que tu es, le Dieu vivant et vrai, et on vient à toi, Seigneur. Ah oui, on t'exprime notre soif, mais Seigneur, tu le vois, souvent on va vers des citaines crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ah Seigneur, qu'on ait une soif de toi tellement grande, une soif de toi qui nous amène toujours à toi. Et merci, on l'a lu, Seigneur, lorsqu'on tourne les regards vers toi, notre visage est rayonnant de joie. Ah Seigneur, c'est ça la vraie vie, c'est ça la vraie satisfaction. Merci que tout est en toi. Ah, que ton peuple ici réuni avance avec la joie de l'Éternel comme étant notre force. Ah, et que si quelqu'un ne connaît pas cette joie, cette paix du salut en Jésus-Christ, ah Seigneur, on intercède pour le salut de l'âme de ces personnes-là. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez prier, vous avez l'occasion de le faire.